19, Jérémie, chapitre 1er, les versets 4 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. » Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Hérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et puis nous lirons un texte également dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, les versets 21 à 30. Luc chapitre 4, les versets 21 à 30. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendent des témoignages. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. N'aie peur de personne. Je suis avec toi. La Bible peut nous apparaître parfois pleine de contradictions. Aux côtés de belles promesses que nous trouvons, aux côtés de belles bénédictions que nous trouvons dans cette parole pour les croyants, il y a aussi des textes qui nous parlent de rejet, d'épreuves, pour les mêmes croyants. Il y a d'un côté ces promesses qui justifieraient en quelque sorte ce que l'on appelle la théologie de la prospérité, et puis il y a d'autres textes qui pousseraient plutôt vers une théologie du sacrifice et de la souffrance. Et parfois même, ces contradictions se conjuguent dans une vie et dans nos vies, ce qui est, avouons-le, troublant, déstabilisant, malgré que la parole de Dieu ne nous a jamais caché cette réalité. Nous le voyons aussi à travers les évangiles, lorsqu'il nous parle de Jésus, les évangiles ne cachent pas de nous parler de la prospérité, du succès du ministère de Jésus, tout en nous parlant également de son rejet et même de sa crucifixion. Comment pouvons-nous nous aussi comprendre et vivre ces contradictions dans nos vies? Certes, nous aimerions tous connaître une vie de réussite, de succès, de bénédiction, une vie sans épreuve, sans maladie, sans souffrance, sans contrariété, qui n'en voudrait pas? Mais force est de constater qu'une telle pensée ne fait seulement que partie de nos rêves. Et si la vie chrétienne transcendait cette dualité qui nous gêne, ces contradictions qui nous déstabilisent? Ce genre de manichéisme inconscient que nous avons tous. Tu fais le bien, tu seras béni. Tu fais le mal, tu souffriras. Je vous invite à méditer à partir de l'exemple de Jésus et de Jérémie, afin que nous puissions comprendre peut-être que cette parole qui est une bonne morale, bien entendu, n'est pas toujours celle que nous vivons et celle que nous serons appelés à vivre. La parole du Seigneur s'adressa à moi. L'appel, la vocation du prophète Jérémie illustre bien cette vérité, cette contradiction. Lorsque Dieu l'appelle à son service, il lui fait une promesse des plus belles. Jérémie, je te connaissais avant même de t'avoir formé. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole, mon prophète auprès des nations. Quelle grâce! Rien que ça. Ce texte nous rappelle que j'existe par la volonté de Dieu, par la volonté du Dieu de la vie. C'est pour ça que j'existe. C'est parce qu'il a voulu. Puis en quelques mots et deux petites visions, Dieu révèle à Jérémie ce que sera sa vie. Elle sera faite de riches bénédictions, d'un beau ministère, mais avec quand même des combats et des souffrances. Dieu lui annonce par ses visions qu'un jour Jérusalem sera détruite et qu'il devra faire face à l'opposition de son peuple. Et face à cette triste réalité qui se profile pour lui, pour le prophète n'aura qu'une seule parole. N'aie peur de personne. Je serai avec toi. Ce que Dieu dit à Jérémie s'accomplira réellement. Jérémie sera un prophète fidèle du Seigneur. Il aura une vie que nul d'entre nous aimerions avoir. Et peut-être que lui aussi n'aurait pas aimé avoir cette vie. Pourquoi? Parce que si nous lisons sa vie, nous voyons qu'il vivra sans cesse en décalage, sans cesse accusé, accusé de trahison, emprisonné, et finira sa vie contre son gré, probablement en Égypte. Que de fois Jérémie a dû dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi? J'aurais préféré qu'il choisisse quelqu'un d'autre, si c'était ça, être prophète. D'ailleurs, dans une parole du livre des Lamentations de Jérémie, il dit, « Je suis l'homme qui a vu l'humiliation sous le bâton de sa fureur. » N'est pas prophète qui veut. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme ceux du Nouveau Testament, ont tous vécu des temps difficiles. À l'inverse, des faux prophètes qui passaient leur temps à dire ce que leurs interlocuteurs voulaient bien entendre. Un peu comme, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un ouvrage que je vous recommande, Le Devin du livre d'Astérix. Vous n'avez pas lu ce livre ? Je vous le recommande. Comme ces certains charlatans, finalement, qui aujourd'hui encore promettent monts et merveilles contre monnaie sonnante et trébuchante. N'est pas prophète qui veut. Il y a les vrais prophètes et les faux prophètes. En Jésus, tous ceux qui croient ont aussi été, comme Jérémie, choisis, sanctifiés, purifiés, sauvés. Mais pourquoi ? Pour être témoin dans le monde, pour être prophète, pour être porte-parole de Dieu. Certes, il existe un ministère prophétique, mais quand même, ne sommes-nous pas tous prophètes ? Si prophète veut dire porte-parole, ne sommes-nous pas tous qui avons cru en Jésus ? Des porte-paroles. Lorsque Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre », lorsqu'il nous dit « Vous êtes la lumière du monde », ça veut dire quoi ? Lorsqu'il nous dit « Vous êtes mes témoins et vous serez mes témoins », ça veut dire quoi ? C'est à nous à relever ce défi. Et comme Jérémie, à savoir accepter cette vocation que Dieu nous adresse tous, à nous tous qui avons cru en lui. Et pour nous aussi, nous n'avons face à la mission qui nous est proposée qu'une seule parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Portons nos regards quelques instants aussi vers Jésus. Face à ses détracteurs, il ne va pas mâcher ses mots. Il ne cherche pas la popularité. Jésus n'est pas populiste pour un sou. Au contraire, face aux critiques de ses détracteurs, il enfonce encore un petit peu le clou. Il évoque le temps du prophète Élie, puis de son successeur Élisée, et il évoque la bonté de Dieu pour les païens. Un scandale pour les juifs, un scandale. Et par ces deux références, Jésus rappelle à ses détracteurs, et il nous le rappelle à nous, qu'il est bien libre et que Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Dieu est un Dieu qui dérange, qui surprend, qui agit là où on ne l'attend pas. Un Dieu qui ne se laisse enfermer dans aucune de nos traditions humaines, aucune logique. Il reste bien au-dessus de tout cela. Il va prendre soin d'une veuve païenne et il va guérir un officier militaire syrien. De quoi provoquer la colère. Oui, Dieu est parfois un Dieu dérangeant. Il dérange nos traditions. Il dérange aussi, certainement, nos préjugés, nos idées toutes faites, comme celles de ces Juifs qui pensaient que Dieu ne pouvait jamais aimer un païen. Il nous étonne aussi par l'immensité de sa grâce et de son pardon. Jésus est Dieu, il fait ce qu'il veut aussi. Mais comme de son temps, beaucoup aujourd'hui n'en veulent pas et aimeraient bien le faire disparaître. Mais que se passe-t-il lorsque l'on veut faire disparaître le Seigneur du paysage qui est autour de nous? Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il semble que rien ne puisse arrêter, déstabiliser le Seigneur. Jésus poursuit sa route et il ira jusqu'au bout de sa mission, jusqu'à la croix. Et on peut dire par extension que rien ne pourra jamais arrêter l'œuvre de Dieu dans ce monde jusqu'à son retour. Que ce soit l'œuvre que Dieu accomplit dans nos cœurs lorsque nous avons décidé d'être avec lui, comme cela a été témoigné ce matin, ce que Dieu a commencé, il le poursuivra jusqu'au bout. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter l'œuvre de son esprit dans nos vies, à condition que nous le voulions bien, à condition que nous soyons ouverts à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. N'ayons pas peur de l'obéissance, de l'engagement, des changements dans nos vies. N'ayons pas peur des changements de nos habitudes, de nos traditions, de nos préjugés. N'ayons pas peur du changement. Même si, au bout, il n'y a pas obligatoirement quelques récompenses. Dieu ne marche pas avec nous et ne fonctionne pas avec nous avec la carotte devant. De mon obéissance devant, il peut y avoir une épreuve. Pas toujours une carotte. Rien ne peut et ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu dans le monde. Il est important que nous en prenions conscience. Nous l'avons vu une fois encore cette semaine avec la réunion missionnaire, avec Françoise Pédot. Nous pouvons le voir aussi avec ce que Dieu fait jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec Aurélie et André Touche, que nous avons accueillis ici l'an dernier. Rien n'arrête et ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu dans le monde. Il est important que nous prenions conscience que l'œuvre de Dieu avance et qu'elle n'est pas en train de reculer et qu'elle ira jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. N'aie peur de personne, je suis avec toi. Que cette parole nous suffise à chacun pour continuer notre route au sein de cette vie, peut-être de notre vie, pleine de contradictions. Peut-être que nous vivons, nous aussi, des temps de bénédiction et puis des temps d'épreuve. Apprenons. Apprenons à vivre avec reconnaissance les temps de bénédiction et apprenons à vivre avec confiance les temps d'épreuve. Que Dieu nous libère de toute cette vision manichéenne un petit peu de la vie que nous pourrions avoir. Que notre vie, celle de l'Église, soit réellement un témoignage prophétique pour le monde dans lequel Dieu nous a placés. C'est ma prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à rester dans un instant de recueillement.